Merci beaucoup, que Dieu soit loué. J'ai sous mes yeux le psaume 37. Je lis le 4e et le 5e vers. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur, ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. Je sais qu'il y a certains qui sont déjà fatigués parce que nous nous sommes suffisamment levés, mais souffrez que je vous demande encore une fois de vous lever parce que nous voulons avoir un petit moment de prière. Ou si peut-être vous n'allez pas vous lever, si vous voulez vous sentir libre et entrer de vous agenouiller, vous pouvez aussi vous agenouiller. Notre texte vient de nous dire, si quelqu'un remet son sort à l'Éternel, si quelqu'un fait de l'Éternel son délice, il lui donnera ce que son cœur désire. S'il remet la vie au Seigneur, alors le Seigneur fera le nécessaire. Le Seigneur te connaît. Il connaît ce qui pèse sur ton cœur. Tu vas profiter de cette occasion pour présenter ta requête à Dieu. Tu as peut-être un malade à la maison. Tu es peut-être coincé par les frais scolaires ou académiques à la maison. Tu as d'autres problèmes dans ta vie. Tu vas saisir cette opportunité pour le présenter à Dieu. Parce que le Dieu que nous évoquons, il est le Dieu vrai qui écoute et qui agit. À part tes sujets de prière personnelle, tu vas aussi prier en faveur de notre pays. Tu vas présenter à Dieu notre pays. Et à part le pays, tu vas prier en faveur de notre paroisse. Surtout quand nous sommes en train de préparer le baptême, nous avons besoin de voir la main de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous bénir de différentes manières. Tu vas donc présenter à Dieu tes sujets de prière. Tu vas présenter notre pays. Tu vas présenter notre paroisse, en particulier ce programme de baptême. Mais aussi tu vas prier pour ton cœur. Depuis dimanche, tu es ici. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit t'accorde à mettre en pratique cette parole. Parce que la Bible déclare, bienheureux sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Prions le Seigneur, parce qu'il est disposé à nous écouter. Si tu veux t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. Si tu veux rester debout, tu vas le faire. Parce que Dieu est là où tu es. Il veut te parler, il veut t'écouter. Prie en faveur de tes requêtes. Prie en faveur de notre pays. Prie en faveur de notre paroisse. Prie en faveur de ta vie chrétienne. Toutes les paroles que tu as écoutées, le message de Dieu, tu as besoin de les mettre en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi dans nos vies. C'est pourquoi nous te présentons encore une fois nos sujets de prière. Tel que nous sommes ici, chacun de nous a sa requête. Il y a ceux qui sont coincés par les frais académiques, les frais scolaires. Il y a ceux qui ne savent pas comment ils vont nouer les deux bouts du mois. Il y a d'autres qui ont des problèmes financiers. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous avec sa particularité. C'est pourquoi, Père, je te demande de voler au secours de mon frère et de ma sœur. Nous sommes en train de te présenter, Seigneur, notre pays, que tu connais mieux que chacun d'entre nous. Tu nous as placés dans ce pays pour que nous puissions voir ta main agir. C'est pourquoi, Père, nous te demandons de bouter dehors les bottes de guerre. Nous te demandons, Seigneur, d'imposer ta paix. Permets, Seigneur, que tous les ennemis de la paix au Congo puissent être confondus, qu'ils puissent échouer. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que tous les seigneurs de guerre au Congo puissent être anéantis et qu'ils comprennent que toi seul, le vrai Dieu, tu as la dernière parole sur cette nation. Seigneur, sauve notre pays. Nous continuons à te présenter notre paroisse. Notre paroisse a besoin de toi. Nous t'évoquons, Seigneur. Nous voulons que tu règnes sur cette paroisse en Seigneur. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, dans cette paroisse. En cette période où nous sommes en train de nous préparer au baptême, nous avons besoin de te voir agir. Nous prions pour les finances. Nous prions pour tous les programmes qui cadrent avec le baptême. Nous les dédions entre tes saintes mains pour que toi tu agisses, Seigneur. Pour que toi tu agisses. Nous sommes là depuis dimanche. Nous sommes en train de t'écouter. Accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, de mettre en pratique ta parole qui est la vérité, ta parole qui sanctifie, Dieu de toute bonté. Agis, agis, Seigneur, agis, Seigneur. Avant de clore ce moment, je sais que tu peux avoir un sujet particulier. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine. Et l'homme de Dieu, le reverend pasteur Loussing, va passer. Il va prier en faveur de tous ceux qui mettront leurs mains sur leur poitrine pour exprimer qu'ils ont des besoins particuliers. Et il va abandonner entre les mains de Dieu la suite de notre programme, en particulier le pasteur.
Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi à ce moment pour te dire merci de cette occasion que tu nous accordes d'être dans ta présence pour parler de notre situation particulière chacun à toi. Ta parole nous dit que tu écoutes la prière et que par conséquent, tous les hommes viendront à toi parce que quand tu écoutes la prière, tu attires à toi. Nous voulons te recommander les instants qui vont venir. Seigneur, accepte, préparez nos cœurs comme la bonne terre qui va recevoir ta parole, la semence de ta parole. Que cette parole puisse germer, que cette parole puisse croître, que cette semence puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom dans notre vie chacun. Nous voulons te recommander chacun d'entre nous pour que tu les rencontres dans sa situation. Nous voulons nous recommander à toi, chacun dans la situation où il se trouve. Parmi nous, il y en a qui sont confrontés à des sérieuses difficultés. Seigneur, nous te prions que tu les rencontres. Ce sont des difficultés de différentes formes, mais devant toi, il n'y a rien qui soit impossible. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses braver la situation de chacun, que le diable puisse être tenu en échec dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous voulons te recommander les paroissiens de cette église, pour que tu rencontres chacun dans sa situation et que tu voles au secours de ceux-là qui sont en danger, que tu interviennes puissamment dans la situation de chacun d'entre nous. Il y en a qui ont des problèmes de santé physique. D'autres ont des problèmes de santé spirituelle. D'autres, des problèmes de santé économique et financière. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes dans tous les aspects de notre vie pour que tu sois élevé, que tu sois souverainement élevé et que nous puissions t'adorer, te louer, te glorifier pour les hauts faits que tu vas accomplir dans notre vie. Merci, Seigneur, de préparer ton serviteur pour nous parler de ta part. Merci parce que l'Esprit Saint, tu seras sur lui, tu seras avec lui, tu seras en lui. Tu vas utiliser sa bouche pour nous parler et pour nous toucher pour une transformation radicale de notre vie. Te disons merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bienvenue au messager. Nous allons l'encourager par les acclamations.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Béni soit le Seigneur qui continue à se manifester au milieu de nous. Nous le bénissons pour votre présence et surtout pour sa présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous vous accueillons dans sa présence au nom de Jésus. Amen. Nous accueillons aussi tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ligne et qui nous sont fidèles partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Ce jour, nous allons lire la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, du 6e verset jusqu'au 10e. La première épître de Pierre, le chapitre 5, verset 6 à 10. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa grâce éternelle, après que vous aurez souffert et peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre 4e jour, depuis le dimanche jusqu'à maintenant, de notre séminaire et enseignement que nous sommes en train de suivre concernant le thème intitulé « Persécutés mais non abandonnés ». Nous sommes en train de continuer à nous rappeler que nous sommes au monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous qui avons cru en Seigneur Jésus-Christ. Et ce statut nous donne certaines limites. Ce n'est pas à dire que nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas à dire que nous n'en avons pas besoin, tel que les autres aussi le font, mais nous nous limitons. Et peut-être à un moment donné, nous pouvons nous sentir persécutés parce que nous n'avons pas atteint ce que nous avons voulu atteindre. Et nous ne l'avons pas atteint parce que nous nous sommes donné des limites par la parole de Dieu qui nous dit, comme tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et hier, nous avons été ici et nous avons parlé du chrétien face au monde. Et à bref, de ce que nous avons dit hier, c'est qu'il a été dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui s'y trouve. Et là, nous avons lu dans la première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 jusqu'à 17, qui nous dit que dans ce monde, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie. Les gens de ce monde, ou même le diable, il fait semblant de nous montrer que c'est facile pour lui. Et quand nous ne voulons pas une vie difficile, une vie où nous allons suer, il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous embrasser. Et c'est pourquoi nous avons dit, soyons vigilants. Soyons vigilants lorsque nous vivons dans ce monde qui est une organisation des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme je l'ai promis hier, aujourd'hui nous allons parler, ou peut-être nous allons identifier les souffrances auxquelles nous faisons face et qui peuvent toucher à notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire la première partie de la prédication d'aujourd'hui, nous identifions ensemble les souffrances. Certaines choses, ça peut ne pas être de péché, mais ce sont des choses qui nous arrivent, mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal pendant que c'est déjà arrivé. La deuxième chose dans cette prédication, nous allons parler comment faire face à ces difficultés qui persécutent notre être. Et ici, nous allons parler de trois types de chrétiens. Trois types de chrétiens qui font face à une difficulté, qui font face à une persécution ou à une souffrance. Il y a trois types de chrétiens que nous allons étudier aujourd'hui et chacun de vous pourra sortir d'ici tout en sachant s'il est de quel type de chrétien. Et donc, j'ai une liste de certaines choses que j'ai inventoriées
et qui peuvent nous arriver dans la vie, peut-être parce que nous sommes chrétiens, ou ces choses peuvent nous arriver dans la vie, mais ça devient un lourd fardeau, et surtout que nous les chrétiens, nous n'avons pas droit de trouver n'importe quelle solution à tous les problèmes qui nous arrivent. Et donc, quand nous sommes chrétiens, nous devons savoir quelle solution prendre. Il y a des solutions qu'on ne doit pas prendre. Vous pouvez avoir un même problème avec celui qui n'a pas encore cru. Moi, j'aurai ma solution et lui aura sa solution. Pour lui, tous les coups sont permis. Mais pour les chrétiens, tous les coups ne sont jamais permis. Tous les coups ne sont jamais permis pour trouver la solution à tous les problèmes que nous avons. Alors, je vais devoir dire la première chose pour que peut-être vous puissiez comprendre. Et vous, je vais vous donner aussi la parole, celui qui peut trouver quelque chose qui nous fait du mal dans notre vie chrétienne. Ça nous arrive, bon, que nous le voulions ou pas, ça arrive et ça rend notre relation avec Dieu difficile. Ça nous amène à ne pas marcher avec Dieu convenablement. J'ai pensé d'abord à la stérilité. Vous êtes chrétien, chrétienne. Vous êtes un couple qui sert Dieu fidèlement. Vous vous êtes marié, vous avez suivi toutes les étapes, mais il n'y a pas d'enfant. Est-ce que cette situation est capable de nous déranger dans notre foi? Est-il possible que nous soyons dérangés dans notre foi parce que nous n'avons pas d'enfant? Il faut dire oui ou non. Ok. Ça, c'était un exemple que j'ai donné. Alors, est-ce que nous pouvons avoir d'autres exemples des choses qui peuvent nous arriver dans la vie et qui peuvent être un freinage par rapport à notre marche avec le Seigneur? Et maintenant, quand nous les aurons inventoriés, je vais dire maintenant comment ces choses peuvent paraître une persécution pour nous les chrétiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une chose? Oui.
Merci.
Oui.
Je pense au chômage pour quelqu'un qui est qualifié dans tel ou tel autre domaine, mais qui, lorsqu'il a devant lui un poste à pourvoir, on lui dit que c'est un poste où, par exemple, il va vendre la boisson alcoolique. Et lui vient de faire longtemps dans la vie de chômage. On lui promet même un grand salaire. Et il dit, protestant, baptiste, à faire le travail ici de vente de boissons alcooliques. Et donc, le chômage peut faire que l'on soit dans une situation qui vous défie.
Voilà, le chômage.
La maladie chronique.
Ok.
Oui.
Les maladies chroniques, quand elles nous attaquent dans la maison, nous commençons à nous injurier. Tu injuries même ton mari, tu injuries ta femme, tu injuries tes enfants, tu injuries parce que à cause de la maladie chronique, les choses ne passent pas.
Il y a également, lorsqu'on est négligé, on se sent négligé et qu'on n'est pas pris à la considération. Lorsque dans des opinions, des idées, dans la société, dans des groupes, et on n'est pas considéré. Donc c'est ça, cela, ça choque. Et, oui.
La non-considération de la part des autres dans la société. Voilà, il y a Oscar qui veut parler aussi.
Nous avons aussi la pauvreté.
La pauvreté, qui va peut-être de pair avec le chômage et autres choses.
Il y a pour les personnes mariées, l'infidélité d'un partenaire. L'infidélité dans les couples.
Ok, les gens qui sont mariés. Et ton mari, bon, j'ai dit ton mari parce que tu es une femme, toi qui viens de parler. Le mari devient infidèle et toi, tu es chrétienne. Bon, quelquefois, c'est possible que tu puisses dire, ok, comme il est fidèle, moi aussi je peux être fidèle pour que ça soit un partout.
Bien sûr.
Or, la parole de Dieu ne te recommande pas ça. Ça devient une persécution. Tu es persécuté dans ton être et dans ta relation avec le Seigneur. Il y a l'ancien Prosper qui veut parler aussi.
Oui, il y a aussi le célibat qui peut aussi être un problème sur la foi. Vous avez des principes, mais il y a des candidats qui se présentent et vous ne savez pas comment faire selon votre foi. Et si vous choisissez, bon, il y a des fois où vous pouvez arriver, bon, Si vous êtes, par exemple, une fille et que les filles m'excusent, vous entendiez quelqu'un de votre foi, mais à un certain moment, vous perdez peu espoir et ce sont les candidats qui ne sont pas de votre foi qui se présentent. Oui, ça peut faire reculer aussi la foi.
Et tu es persécuté parce que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais alors les chrétiens ne viennent pas. C'est les musulmans qui arrivent. Or, qu'est-ce que tu vas faire?
Avoir des enfants délinquants dans la famille chrétienne, ça peut être aussi un blocage.
Oui, les enfants délinquants. Et ces enfants-là vous découragent, peuvent vous décourager aussi de faire de votre mieux pour le service. Parce que quand on se met ici, je suis en train de prêcher, je parle, vous là, vous serez en train aussi de regarder mes enfants. Comment ces enfants aussi se comportent par rapport à ce qu'ils enseignent. Ça, c'est un problème aussi chez les prédicateurs. Oui.
Oui. Je connais l'histoire d'une fille qui s'est mariée et puis cette femme-là qui venait de faire 4 ans dans son foyer et puis sans enfant. Et grâce à Dieu, elle a pu concevoir. Et puis, un serviteur de Dieu est allé prier là, une forte prière avec onction. Et puis, le lendemain, la femme a avorté. Et lorsque j'ai écouté ça, ça a touché vraiment. L'avortement.
OK. L'avortement. Vous avez fait 4 ans, 5 ans sans enfant, mais quand vous avez maintenant la grossesse, l'avortement encore arrive. Que faire, vous qui êtes chrétien? Oui, maman, ça n'était pas? Vous pouvez parler, peut-être on peut écouter. On va s'efforcer. Voilà. Vous êtes chrétienne ou chrétien, mais votre partenaire est soulard, ivrogne. Est-ce que c'est la solution, ce que vous aussi vous puissiez prendre pour que au moins vous tous, la nuit, il n'y aura pas de problème, la journée, il n'y aura pas de parce que vous êtes tous saoulés. Maman, OK. La discrimination. Vous êtes chrétien et vous êtes discriminé. Et ça, je peux lire maintenant ce que moi aussi j'ai dit. Bon, il y a déjà ce que vous avez dit. Et je parlais de la stérilité qui peut arriver. Il y a l'injustice sociale qui vient d'être dite là. Mais une injustice sociale qui est justifiée par la foi en Christ. Un jour, nous sommes allés prêcher. Il y a un musulman qui a cru en Seigneur. Et après avoir cru en Seigneur, c'était célibataire, ses parents ont appris qu'il vient de croire en Dieu. J'étais encore dans une paroisse quelque part ici à Goma. Et le parent de ce garçon est venu à la paroisse avec une machette. Il a dit, cet enfant, là où je vais le trouver, moi-même je vais l'égorger. Je ne peux même pas utiliser cette autre personne d'autre. Moi-même je vais l'égorger parce qu'il vient, ils utilisent le verbe koukoufour. Koukoufour. Il a été rejeté par sa famille. Et nous, l'Église, nous avons manqué quoi faire. Que faire? Nous avons cherché à préserver sa vie. Et nous lui avons cherché une famille d'accueil. Il est sorti de sa famille et il est venu dans une famille d'accueil. Et gloire à Dieu, jusqu'aujourd'hui, il continue toujours dans la foi. Il y a aussi des pertes de relations. Quand vous croyez en Christ, avant de croire en Christ, vous aviez des relations. Les gens, des kidnappeurs, vous étiez kidnappeurs peut-être. Vous étiez, je ne sais pas qui, tout ce que nous pouvons connaître. Et vous décidez de croire en Christ. Vous pensez que ces gens-là, ils vont vous laisser à l'aise parce qu'ils savent que celui-ci qui vient de croire en Christ, un jour, il va témoigner. Il se mettra devant les gens, il va dire, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et on va venir lui demander, alors vous avez fait ça avec qui? Et cela peut lui causer des problèmes. C'est-à-dire, vous allez perdre les relations que vous avez eues. L'injustice sociale liée au genre. L'injustice sociale qui est liée au genre. Bon, maman a parlé de la discrimination, la négligence. Mais ici, moi, je voudrais insister sur l'injustice sociale qui est liée au genre. Il y a des gens ici qui sont blessés en voyant une femme se mettre ici en train de diriger les cultes, en train de prêcher, en train d'officier. Seulement officier les cultes, quelqu'un là, il sort de l'église étant déjà blessé. Depuis quand une femme peut officier le culte, injustice sociale. Et cette femme-là, qui devient l'objet de cette injustice sociale qui est liée au genre, quand elle va comprendre et va écouter qu'il y a quelqu'un qui a été blessé à cause d'elle, un autre jour, vous leur direz de diriger le culte, elle risque de refuser. Elle va refuser. Et le fait de refuser, là, elle sera en train de donner place au diable. Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé à faire ce travail. Et il ne faut pas qu'un découragement de quelqu'un puisse la décourager à continuer à faire ce travail-là. Il y a aussi dans la vie des chrétiens, la vie des justes, tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucun péché, mais la succession de faits malheureux arrive dans la famille. Vous êtes président d'une mutuelle, vous perdez l'argent. 25 000, 30 000, 40 000. D'ailleurs, c'est là, ça c'était votre travail. Et quand l'argent vient de se perdre, vous perdez automatiquement aussi le travail. Et on ne va pas vous pardonner sans avoir payé cet argent. Tu as déjà perdu l'argent, tu as perdu le travail au tenu de payer l'argent. Et tu vas faire quoi? Pendant que tu es en train de payer cet argent, ou tu vas même vendre ta parcelle, ton épouse est en train de faire le travail qui va permettre que vous puissiez manger à la maison. Mais après un mois, le travail est fini aussi chez l'épouse. Après 3 mois, maison est cendillée. Après les 2 juillet, aucun enfant n'a réussi. Vous êtes chrétien. Quelle sera votre attitude face à Dieu? Face à Dieu, celui à qui vous croyez et vous le priez chaque jour, vous avez votre foi à lui. Jusqu'où irez-vous avec Dieu? Jusqu'où irez-vous avec Dieu qui n'est même pas capable de vous protéger? De vous protéger. On a parlé de maladies chroniques. Quand on est malade, on a une maladie chronique dans la maison. Quand vous êtes malade une semaine, c'est possible que les gens puissent venir vous voir, les gens puissent trouver l'occasion de venir vous garder à l'hôpital, mais quand c'est déjà 1 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année, il y a des gens qui commencent même à prier autrement. Seigneur, est-ce que tu peux permettre... Nous allons commencer à dire, Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite. Et quand nous prions que ta volonté soit faite, peut-être en dessous, il y a quelque chose qui dit, bon, cette volonté-là, c'est laquelle? Il faut peut-être que la personne parte. Et quand la personne vient de partir, ce que nous faisons souvent, c'est quoi? Ce que nous disons? Bah, c'est anapumuzik, alikuwa metesek. Peut-être que nous-mêmes, là, c'est nous peut-être qui... peut-être que c'est nous qui étions fatigués. Alors nous... Nous disons que nous avons pour musique, alors que c'est nous qui avons pour musique. Ça devient un problème. La perte des parents. Vous êtes de jeune âge, vos 2 parents partent et vous ne savez pas comment vous allez vivre. Vous êtes à première année secondaire, 2e année secondaire et les parents partent. Si je me souviens souvent de mon père, mon père, il est encore vivant. Il est en train d'approcher les 70 ans. Mais il ne connaît pas sa mère. Il est né et sa mère est décédée. Son père aussi, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé au nom de l'Évangile. Il l'a laissé dans des milieux où il y avait les stations missionnaires. Il y avait des endroits où on appelait... Ok, c'est quoi? Je ne sais pas comment je peux le dire en français. Bon, vieillerie, si c'est vieillerie ou comment, je ne sais pas. On l'a amené dans la vieillerie. Il y a eu une vieille qui l'avait élevée comme sa mère. Cette vieille-là, nous, on a grandi tout en sachant que c'est elle la mère de notre père. Et d'ailleurs, quand elle est décédée, elle était chez nous à la maison, elle était chez nous à la maison. En fait, papa aussi l'a pris comme sa mère. Et jusqu'à maintenant, mon père ne connaît aucune personne membre de la famille de sa mère biologique. Ces gens comme ça, quand ils grandissent, ils peuvent développer deux tendances. Les uns peuvent être agressifs et les autres peuvent être humbles. Merci à Dieu parce que mon papa, lui, il a été humble. Et il n'a pas de problème à ce niveau-là. Mais les autres agressifs. Et donc, si vous avez un mari agressif, si vous avez quelqu'un dans la famille, il faut étudier. Il faut aussi étudier les choses qui se sont passées dans sa vie. Ça peut aussi influencer sa manière de vivre. Ça influence aussi notre manière de concevoir la place de Dieu dans notre vie. Comment Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, a permis que ceci soit? Et nous nous posons la question. Qui a déjà été victime du tribalisme ici? Du racisme? Bon, le racisme est peut-être parce que nous sommes ici, mais ceux qui voyagent en Europe et ailleurs, ils peuvent comprendre. Ils ont été victimes quelque part du racisme. La non-considération à cause de ses origines. Le tribalisme, c'est aussi lorsque nous vivons ensemble au quartier. Il y a un terme qu'on utilise souvent ici à Goma. Je ne sais pas pourquoi ce terme-là est utilisé. Je ne sais pas si on l'utilise positivement ou négativement. Si tu as un petit kiosque au quartier et tu es Nande, ça devient directement une adresse. Kwamunande. Si tu es Munyabungu, Munyabungu, tu es ceci. Donc, ça devient votre nom. Et celui à qui vous venez, cette personne-là, le voisin, qui n'est pas de votre tribu, qui vient même demander le savon pour laver ses ustensiles de cuisine. Et après, il va dire, « Allez, va te voir, na ubaguzi. » Alors que c'est vous qui l'avez aidé de cette manière-là. Vous devenez victime et vous êtes chrétien. Que faire? Nous sommes persécutés par différentes choses dans notre vie. Nous sommes persécutés par différentes paroles qui sont proférées à notre égard. Et nous ne pouvons pas trouver de solution. Des solutions comme tout le monde. Et nous devons chaque fois savoir, c'est possible que tout ça, c'est dans notre vie. Tout ça, c'est dans notre vie. Et nous sommes des chrétiens. J'ai ma femme, nous sommes à la maison, nous n'avons pas d'enfants. 5 ans, 10 ans sans enfants. J'ai dit, tous les coups ne sont pas permis. Nous sommes persécutés comment? De la manière dont, en cherchant l'enfant, nous devons voir quelle pratique nous allons faire et qui va plaire à Dieu, qui ne va pas nous enlever dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur. Pendant que celui qui ne croit pas à Dieu, lui, il est en mesure d'aller voir le féticheur. Et rien ne se passe. Chez lui, il n'y a pas de problème. Mais toi, non. Et donc, là où tu es persécuté, c'est lorsque tu vas accepter et tu vas comprendre que le Seigneur sait. Tu es satisfait dans cette attitude de souffrance. Tu es satisfait. C'est un peu comme, on peut dire, la guérison sans guérison. La guérison sans guérison, c'est quoi? C'est quand on a le VIH-Sida et vous vivez par l'espérance comme quelqu'un qui n'est plus malade. Et on vous prêche l'évangile, vous croyez en Christ et vous dites que je sois vivant, que je meurs. Je meurs pour le Seigneur, que je vis pour le Seigneur. Et donc, en tout, le Seigneur est là. Donc, en Christ, j'ai déjà obtenu la guérison. Pendant que si on va à l'hôpital, le virus est toujours là. Alors, nous vivons comme ça. Nous acceptons de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous marchons avec lui et nous acceptons ce qu'il a voulu que nous puissions être afin que la gloire lui revienne dans la vie. Est-ce que quand ces choses nous arrivent, ça signifie que Christ nous a abandonnés? Oui, possiblement, nous pouvons le dire. Oui, le Seigneur nous a abandonnés. Ça peut arriver. Alors là, nous allons dans notre deuxième partie de cette prédication de ce soir. Ce sont les 3 types de chrétiens face à tout ce que nous venons d'identifier ici. Ces 3 types sont lesquels? Il y a les chrétiens qui rétrogradent. Quand il y a des problèmes qui arrivent, quand il y a des situations qui dépassent, il y a ceux qui rétrogradent, il y a d'autres qui renoncent, et il y a d'autres qui s'élèvent. Je vais lire la parole de Dieu à 2 Pierre, chapitre 2, les versets 20 à 22. Là, nous parlons des chrétiens qui rétrogradent devant les difficultés, devant les persécutions, devant une situation que lui-même considère que ce n'est plus possible. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22, la version, c'est la parole vivante. En effet, il y a ceux qui ont échappé aux mauvaises influences du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais s'ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elle, ils se trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu le juste chemin que de l'avoir connu et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que le proverbe dit précisément. Les chiens retournent à ce qu'il a vomi. Ou les cochons à peine lavés va de nouveau se rouler dans la boue. Voilà, ça c'est le verset de 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20 jusqu'à 22. Il est possible que les gens croient en Christ, mais à cause des difficultés, ils rétrogradent, ils rentrent. Ce genre de personnes sont dans l'Église. Nous les connaissons. Et nous avons toujours tendance directement à dire « Manake hawakoko kaka ». Ces gens-là sont dans l'Église, ils servent Dieu quand tout va bien. Et ils s'arrêtent quand tout va mal. Quand ça ne va pas, ils vont s'arrêter. Ils disparaissent des bancs de l'Église dès qu'ils se sentent dépassés par les épreuves. D'ailleurs, ils se grisent contre Dieu. Et ce sont ce genre de personnes qui se posent la question, pourquoi as-tu permis ceci? Et là, nous parlons du premier type de chrétien face aux souffrances ou à la persécution. Ici, nous parlons de ceux qui rétrogradent. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ceci? Et facilement, ils tournent leur dos quand la vie leur échappe. Quand ça ne va pas, ils tournent leur dos. Ils retournent facilement à leur ancienne vie. À leur ancienne vie, ils rentrent. Les espoirs sont déçus et ils rentrent facilement. Ils se retrouvent même des raisons. Quand vous leur demandez pourquoi, ils ont toujours des raisons. Voici la raison. Voici la raison. Et si vous les écoutez, vous pouvez penser qu'ils ont raison. Mais nous devons retenir. En Hébreux chapitre 10, le verset 39, nous qui avons cru en Christ malgré toutes les difficultés qui peuvent subvenir, Hébreux chapitre 10, verset 39, la version parole vivante dit, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. » Tu es de quel type? De quel côté? Est-ce que tu es de ces gens-là qui retournent en arrière pendant les difficultés? Ou tu es de ces gens-là qui s'attachent à la foi pour sauver leur vie? Donc ça veut dire que notre vie spirituelle ne doit jamais vaciller au gré de notre état d'âme. Si nous n'avons pas été satisfaits quelque part, ce qui va montrer que nous sommes réellement chrétiens, c'est notre fermeté dans la foi. Lorsque nous allons continuer avec le Seigneur, il ne faut pas être prêt à remettre votre engagement en question, parce que c'est possible. Quand on est dépassé par les événements, on peut facilement remettre son engagement en question. Quand on est troublé, mais pourquoi je m'étais engagé? Apparemment, je m'étais engagé très vite, avant que je ne sache réellement pourquoi je m'engage. Alors, si nous sommes comme ça, nous n'aurons jamais une vie victorieuse dans notre vie. Et vous allez quitter le Seigneur facilement si vous remettez en doute votre engagement. Nous devons savoir que si nous sommes des... Est-ce que nous nous reconnaissons? Le dimanche passé, nous avons dit, quand nous venons au monde, nous ne venons pas au monde à rien. Quand nous venons au monde, la première chose à faire, nous pleurons. C'est ce qui montre que nous sommes normaux. Les infirmiers reconnaissent que nous sommes normaux à partir des pleurs. Mais aussi, quand nous venons de pleurer, il y a quelqu'un qui était en train de pousser pour que nous puissions sortir. Je ne serai pas dans cet état ici. Vous l'injuriez. Mais après, quand vous allez voir cet enfant, vous oubliez tout et vous riez. Vous vous riez ici, l'enfant pleure. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Nous devons comprendre que, de par même notre naissance, la souffrance est une partie intégrante de notre vie. Même étant chrétien, nous allons toujours en avoir. Ça veut dire retourner dans le monde. Là que nous sommes venus, comme le verset a dit, il ne faut jamais être comme le porc qui vient de se laver et après il retourne encore dans la boue. Ou le chien qui vomit, mais qui reprend encore ce vomissement. Il n'y a jamais de solution, car rentrer ou s'éloigner de Dieu, ou vivre dans l'instabilité ne nous aidera pas. Ça ne va pas nous aider. Mieux vaut de continuer dans la voie que toi-même tu t'es choisi. Parce que tu as choisi d'être fidèle à Dieu. Mieux vaut continuer et aller de l'avant au lieu de rétrograder. La Bible a dit, quand tu rétrogrades, tu deviens encore pire que lorsque tu étais avant. Tu deviens encore pire. Et d'ailleurs, tu es plus difficile à convaincre encore pour revenir en Christ. Parce que quand toi tu as cru au Seigneur, tu es arrivé à l'église, tu connais déjà la parole de Dieu et maintenant tu rentres. Il faut des évangélistes expérimentés qui sont remplis du Saint-Esprit pour que tu reviennes encore. Mais la Bible dit que c'est difficile pour toi de revenir. Vaut mieux continuer avec le Christ malgré les difficultés de la vie. Le deuxième type de chrétien devant la souffrance ou devant un épisode de la vie qui dépasse notre attendement, ce sont les chrétiens qui renoncent. Là, c'est le verset que nous avons lu. Nous avons lu 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. Nous avons lu des 6 à 10. Ici, je veux encore relire le verset 8 jusqu'à 9. La version parole vivante dit ceci. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Quand on est accablé par une situation qui dépasse notre attendement, souvent nous pensons que nous sommes les seuls. Tu as des problèmes, tu penses souvent que tu es le seul. Mais si tu vas écouter quelqu'un d'autre, tu vas voir que toi tu es encore même à l'école primaire, lui il est à l'université des problèmes. Beaucoup de croyants renoncent à leur foi. Souvent nous déposons les armes et nous nous donnons des raisons comme je l'ai dit. Il y a des gens, bon, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc, tu es chrétien, comme on est en train de nous enseigner que nous devons supporter les souffrances, et directement, tu deviens plus chrétien, tu acceptes la souffrance, et tu te plies à ses exigences. Le diable va t'attaquer farouchement par des maladies, par des divorces, par la peur, par la haine. Et tu ne vas même pas répliquer. Tu ne verras pas que c'est déjà un danger. Parce que toi-même, tu vas te convaincre que non, les chrétiens doivent souffrir. Et nous avons souvent des faux raisonnements quand nous sommes comme ça. Quand nous sommes comme ça, nous avons souvent des faux raisonnements. Ici, je suis en train de parler de chrétiens qui ne veulent plus fournir d'efforts pour sortir de ces moments difficiles. Ça veut dire, même si nous disons que nous devons faire des moments difficiles dans la vie, ça ne signifie pas que nous allons croiser les bras et accepter que ces moments vont venir et ces moments sont là, ça doit venir. D'ailleurs, ce qui nous montre souvent que nous sommes déjà dans ce stade de renoncement lorsque nous avons des problèmes, c'est quand nous disons ceci, si Dieu veut me délivrer, il le fera. Donc tu laisses ça. Bon, c'est Dieu, il le fera s'il veut me délivrer. Et s'il ne le veut pas, il ne le fera pas. Tu peux encore dire, ça arrive parce que c'est la volonté de Dieu. Oui, quelquefois nous lisons souvent. Oui, c'est la volonté de Dieu. Et tu te dis, qui suis-je pour résister à la volonté du Seigneur? Je ne peux pas résister. J'ai essayé, mais c'est trop difficile. Et en fait, tu dis, Dieu m'a abandonné. Basse. Et la vie devient comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que Dieu est souverain dans notre vie. Et il n'ignore pas toutes les situations que nous traversons. Et il utilise même les épreuves pour nous façonner. Mais nulle part, la Bible ne nous dit d'adopter une mentalité défaitiste et devenir des pantins du diable. Nous ne devons pas accepter d'être pantins du diable. Oui, les choses qui nous arrivent, nous devons voir comment les transformer en gloire et par l'aide du Seigneur. Là, comme nous sommes en train de parler des renoncements, et il y a la question de l'épreuve qui vient de sortir là, je voudrais parler de deux sortes d'épreuves. Il y a des épreuves qui sont permises par Dieu pour peaufiner notre caractère. Tu peux traverser une situation où c'est le Seigneur qui le permet. Et son objectif, c'est d'affermir ta foi, peaufiner ton caractère. La Bible dit que Dieu ne tente pas. Mais les épreuves auxquelles le Seigneur peut nous soumettre, il les utilise pour nous façonner, pour nous bâtir, nous purifier même de nos péchés, nous rendre humbles, mais aussi solides. Il y a quelqu'un qui peut être orgueilleux de naissance. Et lui, il sait que partout où il toque, on va lui ouvrir. Mais un jour, il arrivera quelque part. Avec son orgueil, il toque, on n'ouvre pas. Ou il pense que comme je suis fils de tel, je suis tel, je suis tel, ce poste doit m'appartenir. Et on ne le donne pas. Il rentre confus, couvert de honte. Le Seigneur est en train de lui dire, tu dois apprendre à être humble. Tu dois apprendre à être humble. Au lieu de continuer à dire, Seigneur, mais je marche avec toi, comment tu peux ne pas permettre, parce que toi tu as dit, frappez, on vous ouvrira. Je viens de frapper, on ne m'ouvre pas. Tu vas continuer à dire ça. Mais, aie une question à tête. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette situation? C'est pourquoi nous devons chercher ce que Dieu essaie de nous dire à travers les situations. Et dans tout ça, nous devons toujours collaborer avec le Saint-Esprit et non rester passifs en attendant que la situation passe. Collaborer toujours avec le Saint-Esprit, ça veut dire lorsque le Seigneur peut nous permettre de passer par une certaine situation qui peut nous être difficile, ne devons pas directement croiser les bras et dire c'est la volonté de Dieu. Oui, Dieu le sait. Mais quel est aussi l'effort que tu fais pour que tu sortes de cela? Afin qu'à la fin, le Seigneur dise, tu as été vainqueur. Il faut qu'il dise, tu as été vainqueur à la fin. La deuxième chose, il y a des épreuves ou des tentations ou des difficultés qui peuvent nous arriver. Parce que ce sont les conséquences directes de notre ignorance ou des péchés que nous avons nous-mêmes commis. Nous savons que le péché, c'est la pire des portes ouvertes pour les diables, pour nous attaquer férocement dans notre vie. Oui, il y a des maladies que nous pouvons avoir parce que nous avons péché. Il y a des maladies, des situations qui nous arrivent dans la vie parce que c'est nous qui sommes la cause. Bon, il y a une loi qui préserve les personnes vivant avec le VIH. Je ne sais pas si on ne va pas me comprendre mal ici. Si on a eu le VIH par l'adultère et la maladie chronique arrive à la maison, la femme aussi devient PVV. Peut-être il y aura un enfant aussi qui va naître et qui va devenir PVV. C'est une situation qui vient d'arriver, difficile, et vous n'avez pas de réponse dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a pas de médicament pour que tu guérisses. Toi, tu vas penser que ici, je n'entends que la mort. Mais à chaque situation, même si nous avons une situation qui a été causée par notre propre comportement, qui nous a amené à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, nous devons faire un effort de ne pas rester dans le défaitisme, mais nous devons dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons fait mal. Nous sommes allés loin de ta volonté, mais nous croyons que tu peux encore nous restaurer. C'est ce que Dieu veut dans notre vie. Alors quand nous restons dans le défaitisme, alors nous donnons place au diable. Il croque notre corps, il croque aussi notre âme. Nous ne devons pas accepter d'être des victimes. La Bible dit que nous sommes vainqueurs. Nous sommes amis de celui qui a vaincu le monde. Ça veut dire aussi nous sommes le plus que vainqueurs. Malgré les situations qui nous arrivent, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Troisième chose, troisième type de chrétien, c'est le chrétien qui s'élève. Il s'élève anasimama. Ce chrétien ici, qu'est-ce qu'il fait? Plus il souffre, plus il se rapproche de Dieu. Plus la vie le frappe, plus on le voit servir dans l'église. Plus il a mal, plus il devient aussi féroce dans la prière. Plus il pleure, plus il place sa confiance à Dieu. Quand vous le regardez, vous vous posez même la question, mais comment cette personne garde le sourire malgré cette souffrance? Non, le Saint-Esprit est là. Et c'est le Saint-Esprit qui a élevé cette personne. Il sait que la seule solution à faire, c'est de fuir vers le Seigneur. On ne peut jamais trouver la solution en dehors du Seigneur. C'est le Seigneur qui est toujours la solution. Qu'il soit même à l'origine de notre situation qui nous dépasse, c'est toujours lui qui est la solution. Nous sommes appelés à être ces chrétiens ici. Face aux problèmes, nous devons être ces chrétiens qui sont élevés dans la foi. Ça, nous lisons dans les livres de Samuel. Le premier livre de Samuel, chapitre 30, les versets 1 à 6. Je vais le lire dans la version Segov 21. La Bible dit ceci. Deux jours plus tard, il y a des versions qui disent trois jours. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans les Negev et à Tiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, en arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer, tout haut, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Pleurez jusqu'à ce que vous n'avez plus la force de pleurer. Je ne sais pas si après ça, maintenant, c'est quoi. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà ce que David a fait. Si vous lisez tous les versets comme il est dit là, vous allez constater que ces gens ici, David, c'est un chef de guerre. Il est allé combattre les Philistins. Les Amalécites viennent de l'autre côté et ils prennent les butins, ils prennent leurs femmes. Le verset 5 de ce chapitre dit que deux femmes de David avaient été aussi emportées par ces Amalécites-là. Donc, lui-même était aussi concerné. Les hommes des troupes qui sont venus, avec qui il était, quand il rentre, il trouve le village dévasté. Les femmes ne sont plus là, les enfants ne sont plus là. Ces gens-là ont dit, c'est à cause de David que nous sommes partis. C'est lui qui nous a dit de partir. Ça veut dire ce que nous devons faire, nous devons finir aussi avec lui. Nous devons les tuer. Lui aussi a perdu les deux femmes. Et on dit, il faut qu'on les tue aussi. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? David, il a dit, je dois me remettre au Seigneur. Je dois me remettre au Seigneur. Il active chez lui dans la ville et il a découvert ce qui est arrivé et il a dit, je dois revenir au Seigneur. Je dois revenir au Seigneur. Ce qui veut dire quoi? Au lieu de se... Ce verbe ici est difficile, je ne sais pas. C'est morfondre. Donc, devenir froid ou ne pas trouver une solution à quelque chose. Au lieu de se morfondre et en vouloir à Dieu, la Bible dit que David est allé se réfugier dans la présence du Seigneur par la prière et il a puisé la force du Seigneur parce qu'il a eu le temps d'aller prier. Quand vous avez des problèmes, quelle est la première chose que vous faites? Quand vous n'avez pas à manger chez vous à la maison, quelle est la première solution? Quand les enfants viennent vous demander les frais scolaires, quelle est la première solution? Ou même quand vous sortez de la maison, quelle est la première chose que vous faites? Vous vous confiez à qui sera capable de vous garder toute la journée? Vous vous confiez à qui sera capable de vous aider à combattre tout ce que vous allez rencontrer tout au long de la journée? David est parti. Il a poursuivi les Amalécites. La Bible dit, il a récupéré toutes les femmes. Il a récupéré tous les enfants. Et la Bible dit que tous étaient sains et saufs. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La première épître de Pierre, le chapitre 5, verset 10. C'est là que nous avons lu. Et ça, nous devons savoir aussi dans la vie, mais pas dans les sentiments de défaitisme. Vous aurez à souffrir encore et peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. Pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, aucune souffrance dans la vie n'a le pouvoir de nous détruire. Et c'est là que nous disons persécutés, mais non abandonnés. Nous pouvons être persécutés, mais le Seigneur est toujours là. Il nous retient, il nous donne la force de continuer encore. C'est à toi maintenant aussi de savoir jusqu'où iras-tu avec le Seigneur, avec ses persécutions aussi, avec ses souffrances, jusqu'où tu iras, jusqu'où tu seras témoin. Jusqu'où tu seras fidèle en Christ. Nous devons permettre au Seigneur d'utiliser tous les traits enflammés du diable. Il faut que le Seigneur les utilise pour notre faveur. Et ça, il va le faire si nous devenons fidèles en lui. Si nous devenons fidèles à lui. La Bible dit que nous sommes vainqueurs. Si tu es vainqueur, on ne peut pas te dire que tu es vainqueur sans te battre. Le vainqueur, c'est celui qui s'est battu. On t'appelle vainqueur parce que tu as remporté le prix. Tu as remporté un combat. Et maintenant, on va dire, voilà le vainqueur. Si la Bible te dit que tu es vainqueur, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire tout ce que nous traversons dans la vie, c'est un combat. Et nous devons être vainqueurs. Et nous sommes du côté vainqueur parce que nous nous combattons du côté de celui qui a déjà vaincu ce monde, qui est Jésus-Christ. Notre dernier texte, c'est le psaume 34, le verset 20. Louis Segaud dit ceci, « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel leur délivre toujours. » Nous pouvons ne même pas connaître la source, mais ce que nous devons connaître, c'est que le Seigneur nous délivrera. Tu peux ne même pas connaître la source de tes malheurs, mais connais d'abord que le Seigneur t'en délivrera. Si tu penses en ce moment, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme David l'avait dit. Non, ne crée rien. Ne crée rien, parce que le Seigneur est avec toi. Il se lèvera pour que son bonheur et sa grâce t'accompagnent, ici sur terre et dans le royaume des cieux. Levons-nous pour la prière.
Nuko mungu mbinguni, asikiae maombi yetu. Nuko mungu mbinguni, asikiae maombi yetu. Tunapoomba, asikia, anajibu. Tunapoomba, asikia maombi yetu.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es en train de te situer par rapport à ces trois types que nous venons d'apprendre. Le chrétien qui rétrograde devant des situations difficiles, le chrétien qui renonce, qui vit dans le défaitisme, le chrétien qui s'élève. Je prie que le Seigneur t'aide, que tu sois parmi les chrétiens qui s'élèvent, les chrétiens qui recourent à l'Éternel, les chrétiens qui savent que leur secours, c'est dans l'Éternel. Prie, dis un mot à Dieu par rapport à ta vie. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans notre vie, nous avons souvent des moments difficiles, comme ceux-là que nous traversons aujourd'hui. La crise financière nous fait mal. Nous n'avons pas à manger dans nos greniers à la maison. Et dans tout ça, nous attendons, Seigneur, des bruits de guerre autour de nous. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu es le rédempteur qui est vivant et tu te lèveras le dernier. Tu ne permettras jamais que le diable et l'ennemi remportent la victoire sur nous. Ô Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu fasses de nous des chrétiens qui avancent avec toi. Des chrétiens qui ne sont pas intimidés par les ruses du diable et les choses de ce monde. Donne-nous aussi l'esprit de discernement afin que nous sachions ce que tu veux dans notre vie. Ne permets pas que notre pied chancelle, Seigneur, parce que nous n'avons pas pu discerner quelle est ta volonté. Laisse-nous, Seigneur, être victorieux du jour le jour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Demain, nous allons parler des attitudes à adopter vis-à-vis de la Bible pour devenir vainqueur avec Dieu. Bonne soirée à tous.